de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous?
Ravie de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le journal et on commence avec les titres. La Finlande a fermé sa frontière avec la Russie pour stopper le flux de réfugiés. L'Indonésie, Brunei Darussalam et la Malaisie demandent un cessez-le-feu à Gaza. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a souligné l'importance de renforcer la coopération dans l'action climatique. Chers amis, nous présentons maintenant le journal incomplet. La Finlande a fermé samedi matin 4 points de passage à sa frontière avec la Russie dans le cadre d'une tentative d'Helsinki d'arrêter le flux de demandeurs d'asile qui, selon eux, était alimenté par Moscou. Cité par Reuters, gardes frontières finlandais vendredi ont annoncé qu'ils érigeraient des barrières à partir de minuit, heure locale au poste frontière de Valima, Nuijama, Imatra et Nirala, dans le sud-est de la Finlande, qui représente la majeure partie du trajet entre les deux pays. Le capitaine Jussi Fainika des gardes frontières finlandais a déclaré à Reuters à Nuijama que de lundi jusqu'à samedi, plus de 200 immigrants illégaux sont arrivés dans le district sud-est de la Finlande. Le gouvernement finlandais a accusé la Russie d'avoir dirigé les migrants vers le poste frontière en représailles à sa décision d'accroître la coopération en matière de défense avec les États-Unis. Cette déclaration a été démentie par la Russie, affirmant que la Finlande avait commis une grave erreur et fermant le poste frontière. La Russie a déclaré que cette décision pourrait détruire les relations bilatérales entre les deux pays. Les dirigeants d'Indonésie, de Brunei Darussalam et de Malaisie ont appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et durable pour mettre fin aux hostilités dans la bande de Gaza. Dans un communiqué officiel du ministère indonésien des Affaires étrangères, publié lors du 30e sommet de la paix à San Francisco, reçu samedi à Jakarta, il a été déclaré que les dirigeants des trois pays ont exprimé leur profonde préoccupation face aux souffrances humaines désirantes et à l'impact négatif de toutes les guerres et conflits à travers le monde. Les dirigeants ont réitéré le message de la résolution du sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique à Riyad en Arabie Saoudite concernant l'agression israélienne contre le peuple palestinien. Ils ont également appelé à la fourniture de biens et services essentiels aux civils dans toute la bande de Gaza et demandé que les biens et services soient distribués immédiatement, durablement, de manière adéquate et sans obstacle. Les dirigeants ont également réaffirmé qu'une solution juste et durable au conflit israélo-palestinien ne peut être obtenue que par des moyens pacifiques basés sur les résolutions de l'ONU, y compris la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée le 23 octobre 2023 et la résolution 2712 du Conseil de sécurité de l'ONU et conformément au droit international, une solution à deux États basée sur les frontières d'avant 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsoudi, a déclaré qu'il était important d'accroître la coopération et de participation de toutes les parties prenantes afin de sensibiliser davantage à la crise climatique. Dans son discours au Forum mondial du mouvement climatique à Yogyakarta, comme cité dans la communiqué officielle du ministère indonésien des Affaires étrangères à Jakarta samedi, elle a déclaré que la participation de toutes les parties prenantes au programme de gestion du climat était absolument nécessaire. Le président général de la direction centrale de Muhammadiyah, Haidar Nasir, a déclaré que le changement climatique était un problème commun auquel sont confrontées toute l'humanité et toutes les nations du monde. Selon lui, des efforts et des mouvements conjoints sont nécessaires pour trouver des solutions stratégiques et systémiques au niveau mondial afin de garantir l'avenir de l'existence humaine et de l'environnement. Le chef de l'Agence de météorologie, de climatologie et géophysique, Mme Dwi Korita Karnawati, a encouragé la collaboration entre les pays de l'ASEAN pour anticiper la menace d'une crise alimentaire qui pourrait survenir en raison du changement climatique. Dans une déclaration à Jakarta samedi, elle a déclaré que le changement climatique actuel a un impact sérieux sur l'économie de tous les pays sans exception, y compris sur la sécurité alimentaire. Selon lui, la crise climatique qui déclenche également la crise alimentaire aura un impact sur d'autres crises, notamment économiques et politiques, perturbant ainsi la stabilité et la sécurité du pays. Par conséquent, elle a souligné l'importance des mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, y compris les changements de mode de vie qui donnent la priorité au développement économique respectueux de l'environnement. Le Parlement indonésien a soulevé trois questions lors de la 9e réunion du Parlement Mixte. Le Parlement indonésien soulevera trois questions, à savoir le multilatéralisme, la reprise inclusive et la transformation numérique, lors de la 9e réunion de consultation des présidents de Mixte à Jakarta lundi 20 novembre, qui rassemblait les présidents du Parlement du Mexique, d'Indonésie, de Corée du Sud, de Turquie et Australie. Cité Antara à Jakarta, le président du Parlement indonésien, Madame Puan Maharani, a déclaré que ces questions étaient des discussions prioritaires pour le Parlement indonésien dans le forum de consultation parlementaire. À une autre occasion, le vice-président de l'Agence de coopération interparlementaire du Parlement indonésien, M. Gilang Dielafarares, a déclaré que les défis intergénération méritent notre attention parce que divers problèmes actuellement rencontrés influencent également la vie de la prochaine génération. Par conséquent, diverses activités menées sur l'impact qui pourrait être reçu par la prochaine génération. Outre les trois questions ci-dessous, lors de la même réunion, la 9e séance de consultation du président de Mixte du Parlement mettra également en avant la question de l'intelligence artificielle. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique La mise au point de la semaine. Cette fois, nous allons vous présenter. Le président Joko Widodo a visité l'Arabie Saoudite et les États-Unis, faire pression pour la paix en Palestine. Le président Joko Widodo a assisté samedi 11 novembre au sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique, ou OCI, à Riyad, en Arabie Saoudite. Ce sommet a été organisé pour répondre à l'évolution de la situation en Palestine. Au cours de la réunion, le président Joko Widodo a déclaré que l'OCI devait être à l'avant-garde dans la résolution de la crise à Gaza, en Palestine. Il soutient également la tenue du sommet de l'OCI considéré comme très approprié. Le président a souligné que l'OCI doit être capable de produire des choses concrètes afin que les atrocités israéliennes à Gaza puissent être stoppées immédiatement. À cette occasion, le président Joko Widodo a encouragé la création d'un cessez-le-feu, l'accélération de l'acheminement de l'aide humanitaire et appelé l'OCI à utiliser tous les fronts pour tenir Israël responsable des atrocités humanitaires commises. Le président indonésien a également souligné que l'OCI doit pouvoir insister afin que les négociations de paix puissent reprendre immédiatement dans le but de réaliser une solution à deux États et de rejeter l'idée d'une solution à un État. Outre sa participation au sommet, le président Jokowi a également rencontré des chefs d'État, entre autres le président Mahmoud Abbas, le roi jordanien Abdallah II bin al-Hussein et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les réunions visaient à renforcer leur engagement à soutenir la création de la paix en Palestine. Le sommet extraordinaire de l'OCI a produit une résolution du sommet extraordinaire de l'OCI contenant 31 points exigeant la fin de l'agression israélienne contre le peuple palestinien. Ce sommet a également abouti à une décision sous la forme d'un appel à tous les pays à cesser d'exporter des armes et des munitions vers les autorités israéliennes parce qu'elles sont utilisées pour tuer des Palestiniens et détruire des maisons, des hôpitaux, des écoles et d'autres installations publiques. Après avoir participé au sommet extraordinaire de l'OCI, le président Joko Widodo est parti aux États-Unis pour rencontrer le président Joe Biden. Outre les discussions sur la coopération bilatérale entre les deux pays, le président Joko Widodo a également transmis les résultats du sommet extraordinaire de l'OCI au président Joe Biden. Le président Jokowi a également déclaré que la résolution du sommet était une décision de 57 pays qui transmettait un message fort au monde. Sur le site officiel de la Maison-Blanche, il est indiqué que lors de la rencontre entre le président Joe Biden et le président Joko Widodo, les deux chefs d'État ont échangé leurs points de vue sur la situation à Gaza. Chaque chef d'État a exprimé sa position nationale en réponse à cette question et a convenu qu'ils devaient travailler ensemble, y compris avec d'autres partenaires régionaux, pour parvenir à une paix durable par une solution à deux États. Chers amis, c'était la rubrique La mise au point de la semaine de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 19 novembre. Le 19 novembre 1917 est la naissance d'Indira Gandhi. Indira Priyadarshini Gandhi était une femme politique indienne et une figure majeure du Congrès national indien. Elle est la première femme premier ministre indienne. Elle a servi du 19 janvier 1966 jusqu'au 24 mars 1977, puis du 14 janvier 1980 jusqu'à son assassinat le 31 octobre 1984. Indira était la deuxième personne la plus ancienne après son père, Jawaharlal Nehru. Gandhi était une femme très controversée en tant que dirigeante des partis politiques et politiques de son pays. Le 19 novembre 1977, le président Anwar Sadat se rend en Israël. Le président égyptien Mohamed Anwar al-Sadat est devenu le premier dirigeant d'un pays arabe à se rendre officiellement en Israël. Il est venu là-bas pour rencontrer le premier ministre israélien Menachem Begin et s'est exprimé devant le parlement israélien, le Knesset, à Jérusalem pour rechercher un règlement de paix permanent. Avant de commencer les négociations, le président Sadat a déclaré qu'il était venu pour construire ensemble une paix basée sur la justice pour éviter de verser une seule goutte de sang d'Arabe et Israélien. Le président Sadat a déclaré que lorsque les cloches de paix sonneront, aucun main se battra les tambours de la guerre. Cette visite a également été le précurseur de la réalisation de l'accord de paix de Camp David entre l'Égypte et Israël en 1978. Le 19 novembre 2004, le film Bob l'éponge est sorti aux États-Unis. Le film Bob l'éponge est un film d'animation basé sur la série télévisée à succès Nickelodeon Bob l'éponge, et le film a connu un grand succès, rapportant 140 millions de dollars américains et recevant des critiques positives de la part des critiques. Une suite a été annoncée en 2012 et créée le 13 février 2015. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Obati, tidakkah henti kacimu berlari? Voice of Indonesia.
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sous la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie. Cette fois, nous allons vous présenter. L'Indonésie a encore de grandes chances de remporter un billet olympique pour l'escalade. L'entraîneur indonésien d'escalade, M. Hendra Basir, a estimé que les athlètes dont il s'occupe ont encore de grandes chances d'obtenir au moins deux billets pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Selon lui, il est optimiste que l'Indonésie sera toujours en mesure de se qualifier pour un garçon et une fille dans le numéro de vitesse. Ce sentiment d'optimisme est basé sur la prestation des athlètes au niveau international et régional. Pour les fils, au nom de Vedrick Leonardo, Kiromal Katibin ou Aspar Jailolo, pour la fille au nom de Rajia Salsabila. Les athlètes rouges et blancs peuvent encore avoir une chance de gagner des billets pour les Jeux olympiques dans des deux séries de tournois qui se disputeront l'année prochaine, à savoir le Huangpu Riverside Shanghai en Chine et se déroulera du 16 jusqu'au 19 mai 2024. Le prochain tournoi aura lieu sera à Ludovica Budapest, la Hongrie, le 23 juin 2024, ce qui marque également la fin de la période de qualification des athlètes mondiaux d'escalade en route pour Paris. Selon Basir, lors des deux championnats, l'Indonésie a réussi à qualifier 5 athlètes masculins et féminins, de sorte que le potentiel de qualification pour gagner des billets pour Paris est assez grand. Jusqu'à présent, l'Indonésie a confirmé 2 athlètes d'escalade qui concourront sur la plus grande scène sportive du monde l'année prochaine. Rahmat Adi Mulyono vient de remporter un billet pour Paris après avoir gagné le final numéro de vitesse de la catégorie L'Homme hors de qualification asiatique de IFSC 2023. Auparavant, l'athlète indonésienne d'escalade Desak Made Rita Kusuma Dewi a remporté un billet olympique qui a remporté l'or au championnat du monde d'escalade de Hangzhou 2023 et aux Jeux asiatiques. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel, intitulée « La grotte de Tanding à Gunung Kidul, Java Central ». La grotte de Tanding à Gunung Kidul peut être considérée comme la plus belle grotte par rapport aux autres grottes des environs. L'origine du nom de la grotte, située dans le hameau de Gelaran, le village de Bejiharjo, dans le district de Karangmojo, la résidence de Gunung Kidul, Yogyakarta, vient du nom de Harto Tanding, le propriétaire du puits qui se trouve juste au-dessus de la grotte et accidentellement pénétré le toit de cette grotte. L'attraction touristique de cette grotte a été inaugurée au début 2016. Lorsque les visiteurs sont amenés le long de la rivière souterraine, qui a 4 mètres de profondeur et 5 jusqu'à 16 mètres de hauteur. Cette grotte mesure 4 jusqu'à 8 mètres de large, 4 jusqu'à 11 mètres de haut et 450 mètres de long, avec une durée de randonnée d'environ 1,5 heures jusqu'à 2 heures. Les visiteurs verront des rangées de stalactites et de stalagmites exotiques suspendu au toit de la grotte. Pour voir la beauté des cristaux étincelants de stalactites et de stalagmites encore actifs, les visiteurs peuvent utiliser une lampe de poche. La taille de la grotte de Tanding est assez grande. Le toit de la grotte est élevé, ce qui rend la teneur en oxygène de cette grotte très suffisante, de sorte que les visiteurs peuvent toujours respirer librement sans être respiratoire. Pour pouvoir profiter de la beauté de la grotte de Gunung Kidul, chaque visiteur doit payer environ 150 000 rupiah pour les touristes locaux et 200 000 pour les touristes étrangers. Cela peut sembler un peu cher, mais les visiteurs sont assurés de ne pas le regretter lorsqu'ils verront la beauté des parois karstiques qui scintillent d'or exotique. Ce forfait comprend l'utilisation d'un canot pneumatique pour un maximum de 4 personnes, des guillettes de sauvetage, une assurance, un guide touristique, des collations, une bagagerie. La sécurité est aussi un endroit pour se reposer dans le belvédère. Pour ceux d'entre vous qui aiment faire du rafting et qui ont l'occasion de visiter Yogyakarta, prenez le temps de visiter l'attraction touristique de la grotte de Tanding à Gunung Kidul. Ici, vous pouvez essayer le rafting dans la grotte et admirer la vue imprenable sur la grotte souterraine. Chers amis, c'était la rubrique magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Bersamamu kita akan taklukkan dunia, arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua, jangan takut untuk melangkah bersamaku.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Bonjour, bonsoir, chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Course d'aventure indonésienne. L'événement national Course d'aventure indonésienne se tiendra du 1er jusqu'au 3 décembre 2023 à Pangandaran, dans l'ouest de Java. Les amateurs de tourisme naturel peuvent participer à cette course et explorer des destinations touristiques extraordinaires telles que Pangandaran, qui fait partie des zones stratégiques nationales du tourisme dans l'ouest de Java. Le député chargé des produits et organisateur d'activités touristiques du ministère du Tourisme et de l'Économie créative, M. Vincentius Djemadou, espère que cet événement pourra attirer les foules et avoir un impact économique extraordinaire, notamment en mobilisant les touristes nationaux et touristes étrangers. Course d'aventure indonésienne est une compétition de plusieurs sports conditionnés dans le concept d'aventure naturelle, de sorte que le terrain ou les itinéraires proposés présentent le magnifique panorama naturel de Pangandaran. La compétition comprend la course à pied, le cyclisme, l'avion et le trekking. Le directeur général de course d'aventure indonésienne, M. Ilham Gumilang, a déclaré que la raison de la tenue de cette activité était le désir de construire un écosystème de course d'aventure en Indonésie. Parce que les pays voisins comme la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines et Brunei Darussalam l'ont commencé plus tôt, au début des années 2000. Dans cet événement, une équipe compte 5 membres, soit un manager et 4 athlètes. Il existe 2 catégories de compétition, à savoir l'aventure amusante et l'aventure extrême. L'aventure amusante est commencée par une course à pied de 5 km et ensuite du vélo sur 43 km, l'avion de la course sur 1,5 km, suivi par un vélo sur 17 km et se termine par une course de pistache sur 8 km. Pendant ce temps, l'aventure extrême commence par courir 2 km, puis faire du vélo sur 158 km, puis courir sur 3 km, faire du vélo sur 8,5 km et courir au tracé pendant 18 km. Pour les personnes souhaitant obtenir de plus amples informations sur les procédures ou bien les frais d'inscription, elles peuvent accéder aux réseaux sociaux Instagram via le compte @iar.officiel. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. dan aku sempurna. Semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Warung itu di laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, mau menjaga hatiku. Daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, oh, oh. Karena bersamamu semua terasa indah. Kuda gulana hatiku telah tersenyum. Ku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Voici le magazine musical. Cette fois-ci, je vous parle d'une chanson intitulée Kala Sang Surya Tenggelam. Netflix, un service de streaming par abonnement, présente le 2 novembre 2023 une nouvelle série intitulée Gadis Kretek, dont les personnages principaux sont interprétés par Dian Sastrowardoyo et Aryo Bayu. Récemment, cette série a fait l'objet de vives discussions positives. Cela a également conduit à ce que l'une des principales bandes originales intitulée Kala Sang Surya Tenggelam devient également virale. La chanson Kala Sang Surya Tenggelam, qui a un genre romantique, a été créée par Guru Soekarno Putra et popularisée par le légendaire chanteur Krisye, sorti en 1978. Pour la version originale de la série Gadis Kretek, la chanson Kala Sang Surya Tenggelam a été chantée par Nadine Amiza, une jeune chanteuse talentueuse née le 28 mai 2000 à Bandung, Java de l'Ouest. Basée sur les discussions avec les producteurs de musique Rocky Leonardi et Camilla Andini, cette chanson n'a pas été radicalement modifiée par rapport à la version originale. La chanson Kala Sang Surya Tenggelam contient un rythme chantant avec une sensation classique et des paroles tristes. Elle convient donc très bien comme bande originale pour la série Gadis Kretek. Les paroles de la chanson contiennent de nombreuses significations implicites qui racontent d'amour d'un couple rempli de divers obstacles. Bon, chers auditeurs, voici Kala Sang Surya Tenggelam, chantée par Nadine Amiza. Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.